quelque chose en toi, c'est de l'intime dans le militantisme.
Pour montrer qu'on peut changer le monde sans être le Che Guevara ou Greta Thunberg.
En y réfléchissant un peu en amont, il y a aussi longtemps que je me souvienne, il y a un événement qui m'a marqué, c'est la mort de Malik Oulsekin. Je ne sais pas si ça vous en reparle, ça, moi j'avais 10 ans à l'époque, c'était en 86. Et j'entendais Brassens chanter à la maison « Mourir pour des idées » et j'imaginais pas du tout à l'époque que ça pouvait être une réalité, quoi. Et donc moi j'ai pris ça un peu comme une grande claque à l'époque, et donc c'est les tout débuts de la conscientisation politique, on va dire, et c'est de se rendre compte que en fait on a une violence policière alors qui est exercée par des détenteurs de la force publique qui sont financés par nos impôts, se retrouver aujourd'hui dans une situation avec un jeune manifestant qui se fait rouer de coups par la police française avec l'ombre de l'extrême droite et du GUD qui plane derrière, ça m'a retourné un peu, et ça a été un des premiers moments dont je me souvienne où cette réaction un peu de je sais pas comment dire, de dégoût par rapport à un ordre établi. L'histoire a quand même montré que ça a fait bouger les choses, mais malgré tout, ce pauvre garçon, il a laissé sa vie sur le pavé parisien pour essayer de défendre une cause juste. Et voilà, ça fait aussi partie d'un peu, enfin, c'est un peu un moment fondateur, on va dire, dans ma structuration politique, on va dire, à l'époque, voilà, où j'étais encore un peu tout jeune.
Est-ce que c'est un garçon?
Oui.
Est-ce qu'il a des lunettes?
Oui. Wow!
Alors, je m'appelle Samuel Faure, j'ai 48 ans, je réside sur Nantes et je travaille dans le joyeux monde de l'économie sociale et solidaire.
On est dans un bocal au Solilab, le bocal rouge, entouré d'OSB, comme partout au Solilab, dans une petite pièce exiguë et cosy avec des petits canapés. Et on espère qu'on ne sera pas dérangé pendant l'interview, c'est tout à fait possible. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce que fait ta structure dans le détail, ton activité principale, c'est quoi le modèle de monde que vous défendez chez Énergie Partagée?
Alors, Énergie Partagée, c'est le mouvement national de l'énergie citoyenne. Donc, en gros, on fédère, on accompagne et on finance des projets citoyens de production d'énergie renouvelable. Donc, l'ambition, c'est de pouvoir redonner un peu le pouvoir aux habitants dans la construction, l'exploitation des parcs de production d'énergie renouvelable qu'on va retrouver dans les territoires. Donc, on intervient sur toutes les filières renouvelables, donc en solaire photovoltaïque, en éolien, en méthanisation, en hydroélectricité et de plus en plus en bois énergie, donc sur des enjeux de chaleur renouvelable où on a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire en France dans les territoires. Et donc on est aujourd'hui, on a deux structures d'accompagnement. Donc on a une structure associative qui joue un rôle de tête de réseau national et qui encadre aujourd'hui 13 réseaux régionaux qui sont présents partout en France. Et ici en Pays de la Loire, on a le réseau Récy qui sont aussi nos voisins au Solilab. Et puis on a à côté de ça une structure coopérative qui est mon employeur, moi pour le coup, qui gère un outil d'investissement, enfin, des outils d'investissement qui vont venir épauler les collectifs citoyens dans les territoires avec des moyens d'investissement et aussi des compétences et un certain nombre d'outils qu'on a mis en place pour accompagner les collectifs qui sont souvent peu sachants sur les sujets d'énergie. On est sur un sujet un peu complexe, donc on s'est doté d'outils pour pouvoir accompagner les partenaires citoyens, et puis on a aussi développé un savoir-faire, on va dire, de co-développement avec des acteurs assez différents qui viennent de la sphère privée, des acteurs publics, type société d'économie mixte, et le but du jeu, c'est de faire travailler tout ce petit monde ensemble sur des projets qui vont durer de 20 à 30 ans, quoi.
Est-ce que tu connais et tu peux nous raconter un peu l'histoire d'Énergie Partagée?
Ouais, alors effectivement, Énergie Partagée, c'est un mouvement qui a émergé il y a une quinzaine d'années maintenant, et qui a été porté par des initiateurs qui sont pas très loin de chez nous d'ailleurs, qui viennent en partie du pays de Redon, donc un certain nombre d'agriculteurs qui se sont regroupés en collectif pour construire un premier parc éolien citoyen qui a mis longtemps à émerger, mais qui a été un peu on va dire une des pierres angulaires du mouvement Énergie Partagée. Il y a eu d'autres initiatives avec des centrales villageoises en région Rhône-Alpes. Et puis tous ces joyeux lurons ont trouvé intéressant de pouvoir se structurer, se regrouper au sein d'un mouvement national donc, qui a émergé formellement dans les années 2010 avec un certain nombre de partenaires. On va retrouver l'ENERCOP, la NEF et d'autres qui ont permis d'organiser tout ça et d'aboutir aujourd'hui à deux structures qui emploient ensemble un peu plus de 50 salariés aujourd'hui.
Dis-nous, quelle est, on va dire, la valeur ajoutée ou quelle est la particularité de que tout ça soit géré en bonne partie de façon coopérative ou par une coopérative aussi?
Il y a beaucoup de coopératives en fait, c'est ça l'enjeu, hein, c'est qu'on arrive à faire fonctionner autour d'un tronc commun un nombre important d'initiatives. Aujourd'hui on a labellisé quasiment 400 projets à l'échelle nationale, alors qu'ils ne sont pas tous en forme coopérative, mais c'est aussi toute la richesse, c'est de pouvoir gérer la diversité des projets, des intentions, des ambitions de chaque collectif dans les territoires qui n'ont pas forcément tous le même ADN, les mêmes envies, les mêmes ambitions. Et donc la forme coopérative qu'on a mise en place côté énergie partagée permet justement d'adresser la diversité des points de vue et de pouvoir créer des instances de décision collective dans lesquelles on va retrouver les différentes sensibilités et on va pouvoir prendre des décisions ensemble en prenant en compte les pratiques qu'on a dans les vallées alpines, celles qu'on a dans les projets bretons, etc. Et donc on a pas trouvé mieux, mais je trouve que l'outil coopératif répond bien à cet enjeu-là, de pouvoir prendre les différents avis et de faire travailler l'intelligence collective pour prendre des décisions ensemble qui satisfassent le plus grand nombre.
Super, merci beaucoup. Et peut-être on va s'approcher un peu plus de toi, de ton parcours de vie. Mmh. Est-ce que tu es prêt?
Allez.
Donc du coup, on s'est questionné comment tu as atterri à énergie partagée. Comment ça a été ces voyages?
Ah, c'est un cheminement qui n'est pas direct, qui est un petit peu long. Alors, je ne sais pas d'où on repart. On repart de loin. Allez, allons-y alors. En gros, moi, je suis d'une formation initiale d'ingénieur. Voilà. J'ai fait une école d'ingénieur sans trop savoir pourquoi ni comment. D'ailleurs, je me suis retrouvé avec un diplôme d'ingénieur en poche dont je ne savais pas très bien ce que j'allais pouvoir faire. J'ai fait un complément d'études en économie et là ça m'a ouvert des portes, en tout cas en sciences humaines, et j'ai trouvé des sujets d'intérêt que j'avais pas du tout dans mes cours de physique et de mathématiques, et donc ça m'a ouvert les portes. Alors j'étais déjà intéressé par l'énergie solaire, en tout cas sur le plan technique, et puis j'ai commencé ma carrière dans le solaire photovoltaïque il y a plus de 20 ans maintenant, hein, donc ça remonte un petit peu, et à l'époque le solaire photovoltaïque avait un intérêt que dans des zones isolées des réseaux électriques. Donc j'ai commencé à travailler en Afrique du Nord et au Proche-Orient pour électrifier des populations qui étaient loin des réseaux, donc notamment au Maroc, en Algérie, on a pas mal travaillé. Et donc ça a permis de concilier à la fois l'intérêt technique pour les énergies renouvelables et puis une approche humaine qui était assez incroyable, parce qu'on arrivait dans des douars marocains, algériens, où on était accueillis à bras ouverts avec des gens qui faisaient des kilomètres pour aller charger les batteries, etc. Donc l'arrivée du solaire a permis aussi d'accompagner une évolution des modes de vie dans des villages très reculés. Et donc ça, c'était assez riche sur le plan humain de pouvoir mettre ces technos là au service des habitants de ces pays. Et puis, de fil en aiguille, on a eu notre première fille qui est née à Lyon, Romane, 2005-2006. C'est le moment où l'État français se dote de moyens de soutien aux énergies renouvelables. Et puis bon, moi j'ai bien vu qu'à ce moment-là, bosser à l'export c'était bien, mais c'était difficilement conciliable avec une vie de famille. Donc on est venu s'installer à Nantes à ce moment-là, où c'était le tout début de l'explosion du marché solaire en France. Dans les années 2006-2007. Et donc, j'ai continué, là, dans une sphère privée conventionnelle, hein, à développer des projets photovoltaïques en métropole, pour le coup, jusqu'à ce que, on avait vécu dans la filière photovoltaïque tout un tas de revirements réglementaires, etc. 2010, moratoire, tout s'arrête. Donc là, assez dur à vivre. Donc, moi, j'étais dans des fonctions de direction où il a fallu que je fasse partir des gens que j'avais formés, recrutés, etc. Donc c'était assez dur à vivre sur le plan humain. Et puis, restructuration, etc. Je me retrouve à gérer une région qui couvre la moitié de la France avec 150 personnes entre Rennes, Dax, Bordeaux, etc. Donc limite épuisement professionnel. Et à ce moment-là, c'est ma fille qui a été en capacité de me dire, de me faire sortir la tête du guidon en me disant « Mais papa, en fait, on peut pas compter sur toi. » Parce que tu es tout le temps parti, parce que du jour au lendemain, tu peux disparaître pour 2-3 jours, etc. Et effectivement, ça m'a fait percuter en me disant, ok, ce que je fais là, ça a du sens, on développe des énergies renouvelables. Par contre, sur le plan humain, je ne me retrouvais pas du tout, quoi.
dit, la tête fait ce qui est fait, est écrit, c'est comme ça, c'est la vie. 24, 9, 90, ma petite gonzesse a vu le jour dans la nuit, c'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un raz-de-marée me secouait de la tête aux pieds, le long de la voie lactée, le long de la voie lactée. Soleil de plomb dans la nuit noire, je me sens comme un lion dans un square, c'est la vie, c'est le traquenard. De l'aube jusqu'au lendemain matin, j'ai alerté tous les pingouins de ma galaxie. J'suis papa. Si on savait tout de ce qui nous reste à prouver, est-ce qu'on se mouillerait jusqu'au cou pour le genre de petite beauté qui vous ligote au pied de son berceau?
Donc il a fallu que voilà que je travaille avec mon employeur de l'époque, un départ en bon terme, mais en tout cas pour pouvoir basculer sur.
Est-ce sur que tu veux nous dire qui était ton employeur de l'époque ou?
Ah, on peut, hein, tout à fait. Ouais. Bah, disons que important. J'ai commencé dans des structures PME qui se sont fait racheter à chaque fois par des grands groupes. Donc la dernière en date s'appelait Photon Technologies, elle a été rachetée par EDF et c'est maintenant EDF ENR. Donc voilà, j'ai eu des fonctions de direction régionale dans cette structure. Voilà, une grosse entreprise, et d'ailleurs qui a aussi contribué à la perte de sens, on va dire, dans le métier, parce qu'on s'est retrouvé à faire du reporting à tort et à travers, des projections à 5 ans alors qu'on ne voyait pas à 6 mois, enfin, donc c'était assez compliqué sur le plan humain, et donc voilà, on s'est quand même quitté bons amis, j'ai appris beaucoup de choses dans ces boîtes-là, mais la transition a pris un an jusqu'à ce qu'on se sépare, que je me pose. C'est à ce moment-là que je commence à me rapprocher d'Enercop, historiquement, qui est le fournisseur d'électricité renouvelable. Que j'ai connu comment? Bonne question. Je ne saurais même pas dire. Je me souviens même pas. C'est,
ça a débarqué dans ta vie.
Après ouais, bah disons que je suis d'une famille plutôt militante. Voilà, j'ai dû voir traîner ça sur des feuillets Biocop ou ce genre de choses. Là. Et donc je me suis rapproché un peu spontanément d'Enercop en disant, bah voilà, moi je suis à Nantes, ça m'intéresse, j'ai 2-3 compétences. Et puis Enercop National à Paris nous a mis en relation avec un certain nombre de sociétaires du territoire. Là. On s'est retrouvés au Solilab déjà il y a plus de 10 ans maintenant. On ne se connaissait pas, on a commencé à échanger comme ça. Et là j'ai commencé à mettre la main dans ce qui me fait vivre depuis 10 ans maintenant avec des dynamiques collectives que je ne connaissais pas du tout dans la sphère conventionnelle privée. Hein. C'était des... On a appris la gouvernance partagée, on a eu la chance d'être accompagné par Enercop National qui avait des personnes formées, notamment par l'Université du Nou, qui a un support méthodologique très chouette. Et Enercop a un peu servi de cobaye au tout début à l'émergence d'un certain nombre d'outils d'intelligence collective. Et pour moi, c'était une révélation parce que autant j'étais dans une position managériale où je décidais des choses du jour au lendemain, sans que ce soit forcément approprié et compris par les équipes. Là, on passe dans une logique où on décide ensemble. Ça prend un peu plus de temps à aboutir. Par contre, une fois que les décisions sont prises, elles sont solides, elles permettent de durer. C'est comme ça quoi, qu'on a constitué entre bénévoles une association de préfiguration de la coopérative régionale Enercop Pays de la Loire. À l'époque. Et puis, donc, ça a été une transition un peu turbulente de mon côté, parce que ça, je l'ai fait à titre bénévole et militant. En même temps, j'ai repris un cycle de formation, histoire de faire un break, surtout. Hein, j'ai repris une formation en 2014, qui m'a amené à travailler 3 ans en collectivité. Donc, je suis arrivé par la petite porte en stagiaire à Saint-Nazaire. Et j'ai eu la chance de tomber là sur des gens qui ont compris l'intérêt d'aller chercher des compétences. Alors, j'y connaissais rien au monde des collectivités pour le coup, mais on a commencé à développer des projets renouvelables sur Saint-Nazaire, qui est un territoire assez passionnant. Et puis De Lintoma à l'époque a eu l'intelligence d'imaginer ce qu'on pouvait faire ensemble, et on a co-construit une stratégie territoriale de développement des renouvelables qui était sur un territoire passionnant et un épisode assez chouette. Et puis, ben, pendant ce temps-là, le projet NERCOP continuait à se grandir hein, sous forme associative. On avait recruté quelqu'un pour porter le projet NERCOP. Ce quelqu'un est finalement resté à Paris parce qu'on avait besoin de lui à une époque un peu compliquée sur les services centraux de NERCOP. Et donc, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau avec plus de porteurs de projet. Moi, j'arrivais en fin de contrat à Saint-Nazaire, donc je n'avais pas forcément établi la suite. Donc, en gros, j'ai pris un peu le sujet en intérim pour porter la création de la coopérative et puis la mettre sur les rails. Et puis, l'intérim a duré 5 ans, le temps que voilà, qu'on structure tout ça, le démarrage de l'équipe, donc jusqu'à fin 2022. Et puis donc cet intérim, alors moi, je n'étais pas là pour reprendre des fonctions managériales parce que j'avais déjà connu ça et ce n'était pas forcément le truc qui me faisait... le plus avancé, mais
tu voyais un peu plus ta fille quand même à ce moment-là.
Ah bah du coup ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Pour le coup, j'ai vraiment pu me recentrer sur la famille et les proches parce que le projet coopératif permettait aussi d'être moins sollicité sur le plan personnel que ce que je vivais dans le privé. Et donc voilà, pendant 5 ans, ça a été une aventure aussi passionnante de création d'un outil coopératif avec là aussi une diversité d'ambitions, de militantisme, etc. dans les territoires sur tous les pays de la Loire. Là. Sachant qu'on a en plus une région qui est un terreau fertile sur ces questions-là. Et donc voilà. Et donc l'énergie partagée, finalement, c'est une structure cousine d'Enercop. On travaille ensemble depuis toujours. Et puis j'ai trouvé chez Énergie Partagée une opportunité de revenir sur du projet sans les dimensions des fonctions support, managériales, gestion que j'avais côté NERCOP. Et oui, qui me prenait les deux tiers de mon temps, là où j'avais le sentiment de pouvoir apporter plus de choses avec les réseaux constitués ces dernières années et puis les connaissances et les compétences. Donc la transition s'est faite assez naturellement. On continue de travailler ensemble, hein, évidemment, sur des projets avec NERCOP. Et j'en suis resté administrateur aussi à titre personnel.
Au-delà du parcours professionnel à strictement parler, pourquoi t'aimes faire ce que tu fais? C'est quoi qui te plaît particulièrement? T'as parlé un peu des aspects techniques, on sent que c'est quelque chose qui te plaît, les valeurs aussi, mais c'est quoi tes motivations premières? Et aussi, quelque part, tu nous as dit que t'avais passé un diplôme d'ingénieur sans bien savoir pourquoi. Ça voulait dire que ça correspondait peut-être pas déjà exactement à ce que t'étais ou ce à quoi tu pouvais aspirer. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a connecté à quelque chose de qui t'étais un peu dans ta jeunesse, adolescent, l'enfant, t'y rêvais peut-être un certain nombre de choses?
Ouais, en effet. Ouais, moi, je me suis retrouvé, j'étais bon élève au collège, au lycée, voilà, donc j'ai suivi un peu la voie que les bons élèves suivent, sans trop se poser la question de qui tu es vraiment, ce que tu as envie de faire. Et effectivement, je me suis retrouvé dans une école d'ingé. Alors, faut pas cracher dans la soupe, hein. Ça a permis quand même d'ouvrir des portes et en France on a quand même cette espèce d'étiquette et quand on a la bonne étiquette c'est quand même plus facile, mais j'ai quand même subi mes études d'ingénieur, c'était long et un peu douloureux et effectivement le côté donc énergie renouvelable tout de suite ça m'a permis de trouver du sens pour mettre en pratique le bagage technique qu'on m'a appris, mais clairement au bout de quelques années ça m'a pas suffi, il a fallu que je trouve aussi du sens dans le côté humain et notamment quand on arrive sur des fonctions de management, de direction, on finit par se demander le matin à quoi ça sert qu'on se lève, si c'est juste pour enrichir les actionnaires ou pour assurer la vitrine de communication d'un grand groupe, voilà, c'était clairement, moi j'étais arrivé un peu au bout de la route de ces logiques-là, et j'ai trouvé dans l'économie sociale et solidaire cette façon de remettre l'humain au centre, et chez NERCOP c'était bien ça le sujet, hein, c'était de pouvoir remettre le pouvoir citoyen, se réapproprier collectivement ce grand machin du marché de l'énergie qui est aujourd'hui gouverné par des mastodontes. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de pouvoir voir des étincelles dans les yeux des sociétaires à qui on n'a jamais pris le temps d'expliquer comment ça fonctionne, et ce côté un peu éducation populaire, de pouvoir partager la compréhension de mécanismes qui sont un peu obscurs, et on ne fait pas grand-chose collectivement, enfin en tout cas dans les médias, pour éclairer le grand public. Et j'ai des souvenirs assez magiques d'Assemblée Générale, où on a l'image d'une Assemblée Générale qui est un truc un peu chiant, statutaire, etc. On a franchi chez NERCOP des étapes un peu douloureuse, parce qu'il a fait, on a vécu aussi des périodes compliquées où il a fallu prendre des décisions qui remettaient un peu en cause les fondements historiques du modèle, et notamment le recours au nucléaire historique. On s'est mis sous la protection de ce dispositif d'État, mais ça a été un exercice de pédagogie de démocratie interne comme j'ai jamais vu ailleurs. On a pris le temps sur plus d'une année d'organiser des sessions de webinaire, et puis on a eu le point d'orgue, on va dire la décision collective en assemblée générale en présentiel avec une centaine de personnes avec qui on a le temps d'échanger et des gens qui ressortent de là ravis alors qu'on a pris une décision douloureuse, mais finalement les gens en portent contents parce qu'ils ont compris plein de sujets et qu'ils ont l'impression de mieux maîtriser leur destin quand même.
Et si maintenant tu peux te souvenir justement d'un moment que tu dis voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Un moment là que ça pourrait être clé ou que ça t'a à ce niveau-là titillé, on va dire comme ça, concret, lesquels ça pourrait être pour toi?
Des moments chouettes, il y en a plein. J'évoquais là cette assemblée générale qui était un peu un point d'orgue côté NERCOP. À côté de ça, on a aussi participé à l'émergence de collectifs citoyens sur la métropole. Donc on a notamment porté, un peu avec la même équipe historique des débuts de NERCOP et de la Loire, le collectif Minawatt, donc, qui a investi dans la toiture des mines. Donc, c'était un projet à la base politique porté par la métropole nantaise, et notamment les élus écolos à l'époque. Ce projet-là, contrairement à la logique habituelle des projets citoyens qui viennent du terrain, c'était un peu un parachutage. Et donc, il a fallu constituer un noyau de citoyens qui se disent « Ok, on est prêt à donner du temps, à se retrousser les manches, à passer du temps bénévole pour se réapproprier le projet, le racheter aux développeurs privé qu'il avait construit. Là, c'est pareil. Alors, on est tous arrivés avec des bribes de connaissances de droite et de gauche sur le photovoltaïque, sur les réseaux sociaux, sur etc. Alors, l'histoire dit pas que notre community manager de l'époque est devenu vice-président de la métropole nantaise. Donc c'est Tristan Henriam, à l'époque, qui était encore étudiant, qui était un peu notre joyeux luron là, sur les réseaux sociaux, et qui a contribué assez massivement à ce qu'on puisse, en quelques semaines, constituer un collectif en capacité de mettre 150 000 euros sur la table pour racheter le projet et se le réapproprier. Et ça, c'est des moments assez magiques aussi, parce qu'on n'avait pas du tout les moyens des grandes plateformes de crowdfunding qu'on croise dans nos métiers. On est parti avec des bouts de ficelle, avec une réunion publique ici au Solilab. Moi, j'en ai fait une chez moi. On s'est retrouvé dans un troquet à Nantes. Et en l'espace de 5-6 semaines, on a rassemblé 300 personnes qui ont ensemble constitué les fonds propres qui étaient nécessaires au rachat du projet. Et ça, typiquement, on parle avec des gens qui venaient faire du don. Et donc là aussi, il y a toute cette dimension éducation populaire, moi, qui me tient beaucoup à cœur, et notamment sur les sujets sur l'économie, parce que on vit dans un monde capitaliste. On a besoin de se réapproprier les outils capitalistes si on veut faire bouger les lignes. Et typiquement, moi, je viens d'un monde où chez moi, devenir actionnaire, c'est un gros mot, quoi. Et donc, il a fallu déconstruire tout ça et puis être en capacité de transmettre ces outils de façon à ce que la sphère citoyenne deviennent aussi un acteur qui pèse dans le monde de l'énergie. Et ça passe effectivement par comprendre comment fonctionne une société, c'est quoi une action, comment ça fonctionne, etc. Et donc tous ces moments-là, j'ai trouvé ça aussi assez riche, quoi, avec des personnes qui venaient là juste pour filer un coup de main, pour nous filer 100 balles, pour donner un coup de pouce, et puis petit de fil en aiguille, leur faire comprendre que on est en train de constituer une société, qu'on va être les investisseurs et qu'on va gérer le projet sur les 30 ans qui viennent. Ça a aussi permis d'en cliquer des trucs chez les gens qu'on avait en face de nous, et ça, c'est toujours aussi un bonheur de contribuer à s'élever collectivement sur ces questions un peu ardues, quoi.
Est-ce que ça vaut le coup de préciser que pour contribuer à l'énergie partagée, c'est pas absolument nécessaire de maîtriser toute la technique et on peut aussi contribuer quelque part financièrement juste et que c'est aussi bienvenu.
Bah ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée d'énergie partagée investissement. Donc c'est un outil d'investissement qu'on a mis en place qui permet de collecter de l'épargne citoyenne. Donc voilà, ça c'est le niveau zéro, on va dire, de l'implication. Donc on peut tout à fait faire confiance et donc on a un outil qui est constitué sous forme ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est reconnu par le label FinanSol pour sa transparence et sa gouvernance ouverte. Et donc voilà, on a aujourd'hui un peu plus de 7000 personnes qui sont juste actionnaires, donc qui ont placé une part de leur épargne chez Énergie Partagée en se disant que bah, c'est aussi utile ici que sur un livret A ou sur une assurance vie.
Voilà, c'est mon cas par exemple.
Voilà, donc typiquement, ça, vu la hauteur de la marche qu'on a à franchir pour, sur les questions de transition énergétique, on a besoin de tout le monde. Et donc, même ceux qui n'ont pas de temps à donner ou pas de compétences particulières, bah, rien que l'épargne, ça nous sert. Et puis au-delà de ça, on a besoin de plein de compétences différentes en fait, dans un projet d'énergie renouvelable. On va avoir besoin de compétences techniques, mais on va aussi avoir besoin de compétences d'animation locale, de formation, de sensibilisation, parce qu'on ne fait pas que d'investir dans l'énergie, on essaie aussi d'avoir des projets qui ont un impact social dans les territoires. Donc on va pouvoir faire des actions de sensibilisation auprès des scolaires, auprès d'autres associations. Moi, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur, c'est de créer du lien entre des mouvements associatifs. Dans nos régions, on en a sa fourmille d'assos. Je travaille aussi dans d'autres secteurs, en Centre-Val de Loire par exemple, où il y a des coins, on cherche la première asso pour trouver des gens qui discutent ensemble. Quoi. On va voir le club de foot, et c'est là qu'on peut discuter. Quoi. Et typiquement, là, bah, sur Rosé, à côté de chez moi, là, moi je suis basketteur, donc ça fait quelques années qu'on a un gymnase qui est orienté plein sud, avec une toiture qui fuit, et ça me rend malade. Donc ça fait quelques années qu'on tense la mairie pour savoir à quel moment on va pouvoir rénover le gymnase. Et à travers le petit club de quartier, c'est une amicale laïque, il y a 800 adhérents en tout, c'est pas très compliqué de créer un pont entre ce qu'on fait dans le monde citoyen sur l'énergie et puis tous ces adhérents d'une association de quartier pour porter un projet ensemble. Et puis en sortant un peu de nos cercles un peu concentriques historiques, on croise un peu toujours les mêmes têtes hein, dans l'énergie citoyenne. Là, c'est aussi d'aller au contact d'autres mouvements associatifs et puis de se retrouver autour d'un projet commun de territoire. Quoi.
C'est très englobant, quoi. C'est de l'énergie dans tous les sens du terme.
Bah ouais, c'est ça.
Ça fait ouvrir plein d'autres choses, c'est vrai. Si vous travaillez avec des scolaires, avec des assos sportives de quartier, c'est l'énergie citoyenne, quoi. C'est vraiment ça, comme vecteur de communication aussi, quoi.
Exactement, ouais.
Au suivant. Suivant.
Alors on se projette un peu et on essaye de rêver et je pense qu'il y a de quoi dire là justement sur ce modèle là. Demain, Énergie Partagée et Enercop, hein, parce qu'on sent bien que tu es vraiment dans le terreau des deux structures, c'est devenu majoritaire, vous avez réussi à faire aboutir un projet à l'échelle nationale, c'est devenu la norme. À quoi ça ressemble selon toi ce monde là?
Alors ce monde-là, il ressemble à quoi? Il ressemble déjà à... On aura réussi à alimenter tous nos besoins d'énergie à partir de sources renouvelables. Donc déjà en matière de contribution au changement climatique, ça fait quand même une petite différence. Alors même si l'électricité aujourd'hui, c'est pas forcément l'enjeu prioritaire en matière d'émissions de gaz à effet de serre, mais il y a tout le sujet de la mobilité, etc. Donc ça veut dire que si tout fonctionne bien, on n'est pas les seuls à en rêver. Hein. Ça a été confirmé par des scénarios très sérieux de RTE, de l'ADEME, etc. On est en capacité en France d'avoir en 2050 une alimentation en énergie 100% d'origine renouvelable. Ça veut dire plus de déchets nucléaires à gérer, ça veut dire plus de consommation d'énergie fossile, ça veut dire des relations très différentes avec les monarchies pétrolières, avec des gens comme Poutine, etc. Donc voilà, il y a tout un tas d'enjeux derrière le fait qu'on puisse se rendre autonome et résilient sur le secteur de l'énergie, qu'il y a tous ces enjeux macro, et puis à l'échelle plus locale, c'est ce qu'on évoquait, hein, c'est le fait d'avoir constitué dans chaque territoire de France et de Navarre des collectifs qui sont en copropriété des actifs de production, Ça veut dire qu'on a aussi un rapport très différent à la façon dont la transition s'opère, dans la façon dont elle bouscule un peu les paysages, etc. Donc c'est une appropriation qui est beaucoup plus facile à défendre quand on est à la manœuvre des projets plutôt qu'en subissant des projets parachutés par des grands groupes. Quand même.
Mais oui, c'est tout à fait ça. Donc c'est pas du tout impossible, c'est vraiment faisable.
Ah bah c'est pas du tout impossible, non, mais clairement. Et c'est vrai que ça suppose un changement culturel un peu radical, parce qu'on est dans un pays qui est, sur les questions d'énergie en tout cas, qui est très centralisé, hein, qui a constitué à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale des monopoles publics pour gérer toute la partie production, distribution, consommation d'énergie. On a tous grandi là-dedans. Ça s'ouvre un petit peu depuis une vingtaine d'années avec l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie, mais malgré tout en France ça n'a quand même pas beaucoup bougé, hein. On a encore toujours plus de 3/4 de la population française qui est toujours chez EDF et GDF avec les tarifs réglementés de vente de l'énergie. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même des signaux intéressants. Aujourd'hui, alors c'est pas forcément pour les bonnes raisons, mais les développeurs de projets d'énergie renouvelable se heurtent à des questions d'acceptabilité locale, hein, sur quelles que soient les technologies. Mais aujourd'hui, construire un parc éolien en France est devenu très compliqué parce que ça a été un sujet qui a été polarisé politiquement, notamment par la droite et l'extrême droite. Et donc, les développeurs se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus faire comme ils voulaient, comme auparavant. Et donc, ils ont aussi besoin de composer avec les territoires. Et donc, bah, nous, on a ce rôle-là de pouvoir faire discuter des cultures très différentes entre un développeur qui va chercher d'abord du profit, et voilà, c'est la raison d'être des structures capitalistes, mais on travaille aussi avec des collectivités qui, elles, sont là dans une logique d'aménagement du territoire. On travaille avec des citoyens qui, eux, vont bah, potentiellement être au contact des installations et donc avec les contraintes associées. Et donc le but du jeu, voilà, c'est de faire travailler ensemble tout ce petit monde, et on sent que les lignes bougent, quoi, malgré tout, et même des grands acteurs aujourd'hui commencent à venir taper à la porte parce que ils ont bien compris que s'ils veulent continuer à construire de nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable, et on en a besoin, quel que soit l'avenir du nucléaire en France, de toute façon il faut qu'on accélère en renouvelable, eh bien ils vont avoir besoin aussi de changer un peu la façon de faire et de travailler aussi avec les...
Comptez sur nous.
Et voilà, exactement. Et donc là, nos structures existent. Et je dirais,
si on voit.
Et s'il faut accélérer, ben, là, on a des enjeux de changement d'échelle qui sont assez colossaux, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on ne pèse pas lourd dans le game, hein, on va dire, mais on a des potentiels assez incroyables de développement devant nous, quoi.
En fait, plus les citoyens vont se réapproprier ça, plus ça grossira rapidement et à la mesure de ce dont on a besoin pour produire ce dont on a besoin. Donc, il faut être aussi très nombreux. Mais tu crois que la manière dont est structurée Énergie Partagée aujourd'hui serait en mesure d'absorber plein de contributeurs qui viendraient financièrement ou avec leur petite force de motivation là, contribuer au mouvement ?
Bah, sur nos outils d'investissement, il n'y a pas de limite, parce que pour le coup, Énergie Partagée d'investissement peut accueillir, donc on est 7000 aujourd'hui, on pourrait être 10 millions demain, ça fonctionne globalement à peu près pareil. Là où on a besoin de mettre de l'huile de coude, c'est sur l'accompagnement humain, et donc notamment tous nos réseaux régionaux. Donc on a aujourd'hui en Pays de la Loire avec Récy, un des réseaux qui fait partie des plus... des mieux structurés, des plus dynamiques. On voit que dans d'autres territoires, c'est plus difficile parce qu'il y a un soutien politique qui est moins affirmé. Et donc c'est là qu'on a besoin aussi de sensibiliser notamment les décideurs publics. Hein. Tous ces acteurs associatifs aujourd'hui sont subventionnés. Et moi, je pense que c'est pas de l'argent perdu parce qu'on adresse des enjeux d'autonomie énergétique, de balance commerciale, etc. Enfin, tout ce qu'on a évoqué. On a besoin, si on veut changer d'échelle, aussi que la puissance publique accompagne le mouvement en finançant tous ces outils d'accompagnement dont on a besoin, parce que là il y a vraiment de la formation et ça se fait pas en claquant des doigts ou par une plateforme internet, quoi. Il faut aussi prendre du temps pour discuter, se former, etc. Et là on a un besoin de soutien sur si on veut changer d'échelle rapidement, il va falloir aussi mettre des moyens en face, quoi.
Et on arrive à la fin, et si j'ai bien compris, t'aimes beaucoup la musique, donc tu vas pouvoir nous conseiller une chanson ou quelques chansons pour finir cette chouette émission avec toi.
Ah, c'est compliqué parce que j'écoute plein de choses différentes. Moi, j'aime bien revenir toujours un peu au basique, et ayant beaucoup voyagé, je me suis aperçu qu'il y a un truc qui fait faire vachement de monde, c'est Bob Marley. Et Marley, tu l'écoutes partout, et il y a un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Zimbabwe. Donc si on peut finir là-dessus, ça va très bien.
Vous venez d'écouter Quelque chose en toi, Une émission proposée par Marie Moisson et Leire Luengo.
Diffusée sur Jet FM tous les deuxièmes mercredis du mois à midi et en podcast sur le site de la radio jetfm.fr. On espère que ça vous a inspiré et que ça va vous donner vous aussi envie de vous lever et de vous engager. We'll fight this little struggle, 'cause that's the only way we can overcome a little trouble. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We gon' fight,
we gon' fight,
we'll have to fight,
we gon' fight,
we gonna fight,
we gon' fight,
fight for our rights. Natty trade it in a
Zimbabwe,
sit it up.
Shit.